Nous sommes à la veille de la première expérience thermonucléaire française. La bombe est accrochée sous le dirigeable.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.
Pour cette toute dernière du Panthéon décousu, suite et fin de notre double visite autour des essais nucléaires français. Après Reagan en Algérie, direction les atolls de la Polynésie française, le paysage y est aussi merveilleux. Bonjour et bienvenue dans cette 30e de la saison 8 et dernière visite du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans. S'il y avait environ 5000 âmes dans le Sahara, aux alentours des sites de largage du Pacifique, c'est l'équivalent de la ville de Rennes. Et vous verrez, la grande maître et le pouvoir savent y faire pour ne rien laisser filtrer, pas même la radioactivité. Comme la visite précédente, alternance d'extraits de deux documentaires, 35 ans d'essais secrets en Algérie et la sombre histoire des essais nucléaires français. Les deux sont accessibles facilement et gratuitement sur le net, je vous mettrai les références sur le site.
Septembre 1963, atoll de Mururoa, Polynésie française. 300 légionnaires du génie débarquent sur la plage de sable blanc du petit atoll du Pacifique. Sur l'île, si isolée que personne n'a jamais osé s'y installer de façon permanente, les militaires se mettent à creuser, à déblayer, à damer. Ils bâtissent des routes, une piste d'aviation, un port et surtout, un poste de tir nucléaire. Car l'atoll de Mururoa et son voisin Fangatofa ont été choisis pour être le siège des nouveaux essais nucléaires français. Sur le papier, l'endroit semble idéal. Car la Polynésie française est un territoire grand comme la moitié du continent européen, mais peuplé seulement de 100 000 personnes, principalement regroupées sur l'île de Tahiti, à 1250 km du site.
L'organisation nucléaire française dans le Pacifique Sud est très simple. Mururoa, Fangatofa, Chantilly. Tahiti, quartier général. Ao, base arrière. Et à quelques centaines de kilomètres au sud, l'archipel des Gambiers, une zone habitée. En 1966, Jacqueline Golas est institutrice sur l'île de Mangareva.
On voyait une quantité de militaires qui arrivaient, des gens très galonnés, pleins de galons, là, avec des casquettes. Mais on ne savait pas pourquoi ces gens venaient nous voir. On ne nous a pas dit « Allez, allez, il y a une bombe aujourd'hui, cachez-vous sous un arbre ». On ne nous a rien dit.
Voici le De Grasse, navire amiral de la flotte, et les bateaux bases, une armada. Son nom, la Force Alpha. En 1966, le général de Gaulle, chef de l'État colonial, s'invite pour la première campagne de tir et promet à la Polynésie de merveilleuses perspectives.
Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend. Votre avenir, il peut être magnifique.
À la suite de ce discours prometteur, des rumeurs circulent dans les îles au sujet d'une prochaine explosion atomique.
On avait des petites choses qu'on nous disait. Qu'on allait tirer, parce qu'ils étaient obligés, parce que ça faisait du bruit quand même. On montait sur le col de Natavake, alors on disait la lueur était là-bas, regardez bien, regardez. Et en effet, il y avait une lueur verdâtre. Et puis il fallait vite descendre, parce que il y avait un souffle de vent qui arrivait, et un bruit, et tout tremblait, les cocotiers, tous les arbres tremblaient.
On est parti, on a quitté un atoll qui était verdoyant, magnifique. On est revenu, il restait une poignée de cocotiers étêtés, brûlés. Donc un spectacle de désolation, de mort, de destruction. Quand on est rentré dans le lagon, les poissons sortaient par masse, quoi, détruits par le tir, qui effrayaient en soi parce qu'on sentait comme planer comme une espèce de... d'ombre de mort. Si la mort pouvait ressembler à quelque chose, c'est l'image que j'ai retenue, moi, quand la première fois, je suis retourné dans le lagon, après ce tir nucléaire.
Aux abords du point zéro, des marins se font photographier avant et après le tir, sans aucune protection.
Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, oh,
1983, Righiera plante la bombe dans le décor de son tube de plage.
Le 2 juillet 1966, à 5h34 du matin, la bombe Aldébaran explose sur une barge dans le lagon de Mururoa.
Tout semble s'être bien passé avec Aldébaran, et le général de Gaulle s'annonce comme invité d'honneur sur l'île de Jacqueline.
Il était sur Mururoa pour presser le bouton. Et ensuite, c'était prévu comme quoi qu'il allait venir dans la nuit à Rikitea et qu'on allait faire une grande, grande fête.
Réquisition avait même été faite du lit king size de Jacqueline, 2 mètres sur 2, pour assurer le bon sommeil du grand général qui mesurait 1m96.
Alors, on attend 8h, 8h30, je vois le chef de poste. Et alors, mon invité, va-t-il venir? Ah ben non, il est reparti sur Paris. On l'a rappelé pour une réunion assez urgente.
La réunion n'est qu'un prétexte. Des retombées radioactives menacent les Gambiers. On exfiltre le général.
Alors ça fait que nous, on est restés sans personnalité, sans le général de Gaulle. On a fait la fête et ensuite on a dormi sous le nuage nucléaire, sous le nuage qui est venu sur nous.
Dès le premier tir en Polynésie, des répercussions ont lieu pour les populations locales. Le nuage radioactif monte moins haut que prévu dans le ciel et se fait pousser dans la mauvaise direction par les vents. Les îles Gambier, situées à quelques centaines de kilomètres de Mururoa, se trouvent en plein sur la trajectoire. Pourtant, les autorités choisissent de ne pas évacuer les habitants. Les raisons sont politiques. Le vice-amiral Lorrain, qui commande les essais, s'explique.
Problème politique important, car peut remettre en cause tir nucléaire au Pacifique et même présence française dans Pacifique.
La France redoute en effet une protestation internationale, les grandes puissances ne pratiquant plus d'essais nucléaires en atmosphère depuis le traité d'août 1963.
John Doom était interprète auprès de l'état-major. Il fut témoin, lui, ce jour-là, d'une consigne de silence donnée par un militaire aux officiers sanitaires.
Le soir, il commençait à pleuvoir. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut rassembler la population à l'infirmerie pour nous donner de l'iode. Mais il y a quelqu'un qui a dit « Ne faites surtout pas ça, vous allez tout foutre en l'air ». C'est ça que j'appelle le colonialisme nucléaire, c'est de ne rien dire et d'utiliser la population laborieuse.
Alors, 4 jours plus tard, dans le plus grand secret, la Marine nationale envoie un navire sur l'archipel des Gambiers afin d'y effectuer des relevés. Le verdict est sans appel, le sol, mais aussi l'eau, les légumes et le poisson sont contaminés. Dans son rapport, le docteur Millon, chef du service de sûreté biologique, préconise de garder le silence et de renforcer le secret pour les prochains essais.
Il sera peut-être nécessaire de minimiser les chiffres réels de façon à ne pas perdre la confiance de la population qui se rendrait compte que quelque chose lui a été caché dès le premier tir.
Ce déni du pouvoir et cette volonté de camouflage aboutiront à une tragédie. Dans un rapport récent des autorités de Polynésie, il est écrit.
La présence d'un cluster de cancer thyroïdien focalisé au niveau des îles soumises à des retombées lors des tirs aériens et notamment au Gambier laisse peu de doutes sur le rôle des rayonnements ionisants.
En juillet 1966, les populations ne sont pas évacuées et les essais atomiques se poursuivent.
Les enfants, ils avaient la diarrhée, il y avait certains qui perdaient leurs cheveux, il y avait certains qui vomissaient, mais on ne faisait pas cas. Mais comme j'avais un cahier de dispensaire, je voyais à peu près ce qui se passait. Il y avait des bébés, je crois, qui sont morts, des bébés qui sont morts de diarrhée. Autrement, il y en avait beaucoup de gens qui ont été secoués quand même.
Bruno Barillo, chargé du suivi des essais pour le gouvernement polynésien, pense à une relation de cause à effet entre les cas et les retombées des bombes.
Des réunions préparatoires aux essais nucléaires, où il y avait tous les grands ponts du CEA, du ministère de la Défense, on disait les choses très clairement. Vous savez que cette population est génétiquement fragile, hein, donc faites attention qu'il n'y ait pas de retombées. Bon, pas de peau. Premier essai, 2 juillet 66, une retombée quasiment de Tchernobyl à Mangareva.
Penderecki, extrait de Traîne pour les victimes d'Hiroshima, 1960.
Tout le monde le savait, ça.
En effet, dans ce document classé secret de l'état-major, on rappelle les caractéristiques génétiques de la population des archipels. et le risque d'impact des retombées radioactives sur leur génome humain.
Deux mois plus tard, le 11 septembre 1966, c'est le général de Gaulle en personne qui vient appuyer sur le bouton. Vêtu d'une combinaison de protection, il déclenche l'explosion de Bételgeuse.
Nous sommes en train de réaliser une puissance moderne.
Pour le président de la République, pas question de remettre en cause le programme d'essai des bombes atomiques. Car cette arme, d'une puissance inouïe, est la clé de voûte d'une nouvelle doctrine, la dissuasion nucléaire. Pouvant être transportée à bord d'avions Mirage 4 et des futurs sous-marins lanceurs d'engins et missiles balistiques, la bombe atomique devrait permettre de dissuader quiconque voudrait s'attaquer à la France.
En 1967, eut lieu le tir Arcturus. Après l'explosion, des mesures détaillées sont en effet effectuées sur la population de Touréa. Pour calculer les doses radioactives reçues par les humains vivant sur cette île, les scientifiques procèdent à une étude détaillée de l'alimentation des 58 habitants, dont 15 enfants. Bilan de la dose thyroïde des petits, 37,4 millisieverts et 24,6 pour les adultes. Aujourd'hui, on estime que 20 millisieverts constituent une dose dangereuse.
Les gens qui ont mis en place le SMSR que j'ai rencontré, qui sont des vrais radiobiologistes, savent parfaitement que la nature est vivante, il y a des organismes qui vont se mettre en route, qui vont transmettre la contamination et surtout la garder. Et donc, si vous allez la voir réapparaître dans les aliments, vous allez les voir réapparaître dans l'eau de boisson. Et donc, en fait, c'est l'exemple des situations après Tchernobyl, des dizaines d'années après, vous continuez à avoir une contamination récurrente. We'll be right back.
sur la bombe atomique de Blondie en 80, toujours dans le Panthéon décousu, ce Radio Alpa fait un certain effet, bien moins inquiétant qu'un vrai largage en douce, au vu et au su de cobayes involontaires, qu'ils soient civils ou appelés.
D'étranges brûlures apparaissent sur le corps de certains marins. Officiellement, elles sont sans gravité.
Ainsi, les essais redoublent dans les atolls du Pacifique, tout comme les accidents. Le 17 juillet 1974, une nouvelle erreur dans les calculs donne lieu à la contamination de l'île de Tahiti, pourtant située à 1250 km du point zéro. Les autorités, conscientes des retombées, tant radioactives que politiques, choisissent encore une fois de garder le silence. Entre 1966 et 1974, 46 essais sont effectués à l'air libre sur Mururoa et Fangatofa. Mais les années 1970 marquent un tournant. L'essor de l'écologie et la multiplication des mouvements pacifistes mettent en lumière la pollution et les risques engendrés par l'énergie nucléaire. Ainsi, à partir de 1974, la France abandonne ses essais à l'air libre pour des tirs sous-marins, toujours à Mururoa et Fangatofa.
C'est bien connu, il ne se passe absolument rien d'important sous l'eau. Il n'y a ni vie, ni écosystème, ni ressources alimentaires, rien qu'une jolie piscine idéale. La conscientisation écologique a tout de même fait du chemin en 50 ans. Le chanteur Georges Chelon, anti-yéyé, apparu avec les premiers essais d'Algérie, chante Nucléaire en 89.
Celle qui voulait me drainer toutes les nuits dans les boîtes, bien avant Joe le taxi et la fille à la Watt, qui avait fait Woodstock comme d'autres ont fait Verdun, qui se shootait au rock et s'éclairait au joint, qui se prenait pour une fleur en rêvant de Cap Mandou. Son guide et son gourou, je l'ai croisé dans le 16e, déguisé par Van Cleef. On s'était rencontrés un jour dans une manif contre le nucléaire.
On avait la chance d'avoir une maison au bord de l'eau, donc au bord du lagon. C'était un terrain de jeu infini pour les enfants. Et les enfants étaient absolument sans contrainte, se promenaient tout seuls, allaient se baigner. C'était une liberté un peu surveillée, mais une vraie liberté quand même. On vivait dehors, hein, c'était vraiment très très agréable.
En 1991, François Mitterrand, président de la République en exercice, annonce l'arrêt des essais nucléaires pendant un an. Cette décision, renouvelée à plusieurs reprises, est néanmoins brisée en 1995 par Jacques Chirac, son successeur, qui annonce une dernière campagne de tir. La nouvelle cause de vives protestations dans l'opinion française et internationale, obligeant le président à prendre une décision.
Mes chers compatriotes, je vous annonce ce soir l'arrêt définitif des essais nucléaires français.
Après un ultime revirement façon queue de poisson irradiée, ah oui, tiens, Higelin, j'aurais pu.
Il faut attendre 2010 et une âpre bataille juridique et politique pour que la France reconnaisse enfin de façon officielle les dégâts sanitaires causés par son programme d'essais atomiques. Un comité est mis sur pied afin d'indemniser les personnes potentiellement contaminées. En 2021, 611 victimes ont été indemnisées, dont seulement 157 Polynésiens et un seul Algérien. Consciente de devoir faire face aux conséquences de sa politique, la France déclassifie, en 2013 puis en 2022, ses archives sur les essais nucléaires en Polynésie. Ces documents attestent du manque de considération porté à la sécurité des populations locales et des militaires engagés sur le terrain. Ces archives témoignent également de la volonté de l'armée et du gouvernement de passer certains accidents sous silence. Car la priorité était bien de mener les essais à leur terme, coûte que coûte, quitte à mentir à la population et à minimiser les risques et leurs conséquences. En Polynésie, tout comme dans le désert du Sahara, seul le secret était la règle.
J'ai les chiffres de 2008. On en est à 460 nouveaux cas de cancer qui se déclarent par an. On en est à 15 fois le taux de l'OMS au niveau mondial, ici, en Polynésie. 15 fois plus.
Quand on sait qu'aujourd'hui, dans une population de 240 000 habitants, qu'il y a 500 nouveaux de cancers chaque année, qu'il y a à peu près 900 évacués sanitaires sur la France, il faudra m'expliquer pourquoi.
La France a une dette énorme vis-à-vis de notre peuple, de notre pays. Peut-être que pour la plupart des Français, De Gaulle, c'est un grand chef. Pour nous, c'est un criminel. Pourquoi avoir profité de l'ignorance et de la petitesse d'un peuple pour nous imposer ça? Et pendant plusieurs décennies, refuser de reconnaître qu'il y a eu contamination.
Et nous voici rendus au terme de 8 saisons de Panthéon décousu. Le Panthéon décousu, c'est désormais 268 visites consacrées. Le Panthéon décousu, c'est désormais 268 visites consacrées à des écrivains, actrices, réalisateurs, musiciens et musiciennes, sujets d'histoire, humanistes, citoyens et sociaux. Une partie est à retrouver en podcast sur radioalpa.com. Dès le lundi 21 juillet et pour 6 semaines, la 8e saison est en rediffusion intégrale du lundi au vendredi à 9h. Mais pour cette toute dernière comme pour les autres, ne nous quittons pas sans musique et sans un titre d'un artiste que j'aime beaucoup. En 79, il sortait Alligator 427. En 2018, il était à l'Accor Arena, Hubert Félix Tiefen. Au début, j'entends « je vous attends » du verbe « attendre », puis « je vous s'attends » du verbe « vouer ». Un changement de sens qui, pour moi, rappelle bien la menace militaire que représente le nucléaire. Et puisque vous ne me demandez pas mon avis, le nucléaire civil, je suis pour, avec des pastilles d'iode à disposition. Merci pour tout, votre confiance et votre écoute. À bientôt, ici ou ailleurs.
On ne pensait pas qu'il y avait des risques, quoi. À l'époque, nous pauvres gars des appelés, on était appelés, on n'était pas engagés, on était appelés. Mais nous, ceux qui sont morts de ça, de cancer et autres, depuis très longtemps, les copains que j'avais, ça, eux, ils sont jamais sur un monument, quoi. Ils sont jamais là.
Alligator 427, aux ailes de cachemire, sa frange gris, ma dernière cigarette. Je vous attends sur cette autoroute hystérique qui nous conduit chez les mutants. J'ai troqué mon cœur contre une trique. Je vous attends. Je sais que vous avez la beauté destructive et le sourire vainqueur jusqu'au dernier soupir. Je sais que vos mâchoires distillent l'agonie. Moi je vous dis bravo et vive l'amour. Alligator 427, à la queue de zinc et de sang, je me tape une petite reniflette. Je vous attends. Dans cet étrange carnaval, on a vendu l'Homo sapiens pour racheter du Néandertal. Je vous attends. Et les manufactures ont beau se recycler, il n'y aura jamais assez de morphine pour tout le monde. Surtout qu'à ce qu'on dit, vous aimez faire durer. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, au long regard phosphorescent, je mouche mon nez, remonte mes chaussettes, je vous attends. Et je bloque mes lendemains, je sais que les mouches s'apprêtent autour des tables du festin, je vous attends. Et j'attends que se dresse mon prochain charnier. J'ai raté l'autre guerre pour la photographie. J'espère que vos macabres seront bien faisant des. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, aux crocs venimeux et gluants, je donne un coup de brosse à mon squelette. Je vous attends. L'idiot du village fait la queue et tend sa carte d'adhérent pour prendre place dans le grand feu. Je vous attends. J'entends siffler le vent au-dessus des calvaires et je vois les vampires sortir de leur cercueil pour venir saluer les anges nucléaires. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427, aux griffes d'or et de diamants, je sais que la ciguë est prête, je vous attends. Je sais que dans votre alchimie, l'atome, ça vaut les travelers chèques et ça suffit comme alibi, je vous attends. À l'ombre de vos centrales, je crache mon cancer. Je cherche un nouveau nom pour ma métamorphose. Je sais que mes enfants s'appelleront Vers de terre. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Alligator 427 au cerveau d'un jaspe et d'argent, il est temps de sonner la fête. Je vous attends. Vous avez le goût du grand art et sur mon compteur électrique j'ai le portrait du prince Ringard. Je vous adore. Je sais que désormais vivre est un calembour. La mort est devenue un état permanent. Le monde est au fantôme, oh yeah, et au vautour. Moi je vous dis bravo et vive la mort. Je vous attends, je vous attends.